Covidienne. Du lundi au jeudi, 30 minutes d'actu, virale et collégiale.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la Covidienne sur les ondes de Radio Campus Angers. On est ensemble pour une nouvelle semaine à discuter de l'actualité locale et même au-delà, puisque pour démarrer cette semaine, Léo nous propose une interview qu'il a réalisée pour son blog d'actualité européenne Causons d'Europe. Il s'est entretenu à cette occasion avec Jacek Rewerski de l'association Anjou Pologne pour parler à la fois de l'association et de la très riche actualité polonaise. Et puis, eh bien, Léo, on t'accueille en studio pour que tu puisses également nous expliquer ce que c'est Causons d'Europe. On t'écoute.
Alors, Causons d'Europe, c'est un blog d'infos européennes qu'on a lancé d'abord avec deux amis de fac, Tony et Paul, auxquels se sont agrégés depuis d'autres contributrices et contributeurs réguliers. J'en profite pour les remercier toutes et tous. Beaucoup de monde autour de moi se sentait pas assez informé sur l'Europe, ne la comprenait pas. Et l'idée de départ du blog, c'est de proposer une info européenne très peu représentée dans le monde médiatique et parfois très complexe. Donc on a une vraie vocation d'explication parce que c'est pas évident à comprendre. Le projet, c'est absolument pas de faire du copier-coller d'autres articles, de se la jouer expert ou de faire la com de l'Union. Et dernier élément, on parle jamais du Covid ni des vaccins, donc faire un tour sur Causons d'Europe, c'est aussi découvrir des contenus peut-être rendus moins visibles par la crise sanitaire. On s'est fixé un but qu'on tient pour le moment, un article par jour. On parle d'institutions, de politique, de société, d'environnement, d'affaires étrangères, de santé, il y a vraiment de tout. Et on se met aussi au podcast, et vous avez la chance, chères auditrices et auditeurs, de découvrir notre première interview ce soir.
Et on écoute ça sans plus tarder, merci Léo.
À mon arrivée chez Campus Angers au mois d'octobre, on avait parlé du conflit qui se déroulait dans le Haut-Karabakh avec Emmanuel Kenemer, président de l'asso franco-arménienne d'Angers. Cette fois-ci, nous prenons la direction de la Pologne, qui a vu de nombreuses manifestations se déclencher suite à l'annonce du gouvernement de restreindre les modalités d'accès à l'interruption volontaire de grossesse, l'IVG. La mesure est récemment entrée en vigueur en dépit de ces mobilisations. Pour parler de tout cela, nous recevons Jacek Rewerski, président de l'association Anjou Pologne. Bonjour Jacek.
Bonjour.
Vous êtes enseignant, historien, vous venez d'ailleurs de publier un roman graphique intitulé Anna, une histoire polonaise, dans lequel vous parlez du sort des Juifs de Pologne pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais d'abord, Anjou Pologne, l'asso propose des cours de langue, organise des conférences, des soirées, des voyages vers la Pologne. Ça fait longtemps que vous y êtes, en tout cas que vous la présidez.
Ça fait plus de 10 ans, effectivement. Donc vous dites qu'elle propose, bon effectivement pour l'instant tout est plus ou moins en stand-by et on a mis l'association en sommeil en attendant les meilleurs temps, aussi bien par rapport à Covid que par rapport aux membres qui voudraient s'investir.
Et vous participez aussi aux commémorations en dehors de ces activités en sommeil type anniversaire de la libération des camps de Auschwitz-Birkenau?
Bien sûr, mais de toute façon là sur le plan personnel j'ai des contacts avec la Pologne et avec notamment l'Institut historique juif, le musée Pauline, et donc tant que je pouvais être sur place jusqu'aux ces dernières années j'étais, et j'amenais aussi des groupes bien sûr là-bas, mais pour l'instant tout est à distance.
Et pour la suite, vous avez un petit peu des idées de nouveaux projets associatifs pour redynamiser l'asso?
Alors, des projets, bien sûr, il faut en avoir, parce que sinon, ça ne fonctionnerait pas bien. Nous avons normalement pour cette année un projet d'un théâtre, une pièce de théâtre pour commémorer le centenaire de la signature des accords entre la Pologne et la France, qui a vu arriver 500 000, un demi-million de Polonais, notamment dans les mines, y compris à Trélazé, dans le nord de la France, ainsi de suite. Donc j'ai un collègue qui a écrit une superbe pièce dans le nord de la France. Il a déjà joué plus d'une soixantaine de fois. Enfin, il a joué tant qu'il a pu. Et il est prévu qu'il vienne à Angers pour cela, mais j'allais dire Inch'Allah, maintenant il faut voir comment ça se passera. Donc il y a ça, on a un projet d'un concert Chopin aussi, si possible. Bon, voilà, on verra.
Il y a des idées en tout cas.
Oui,
il y a des idées. Vous avez donc, je le disais tout à l'heure, vous avez publié un bouquin, Anna, une histoire polonaise, c'est un roman graphique. Pourquoi vous avez choisi d'éditer ce livre et pourquoi avoir choisi le format en tout cas du roman graphique?
Alors, bon, c'est pas le premier livre. Hein. Auparavant, j'ai pas mal publié dans mon domaine, je dirais historique et géographique, mais ça n'a rien à voir. Et puis, par la suite, je suis passé davantage sur l'histoire polonaise, puisque, comme vous avez signalé, j'organise depuis pas mal d'années, ou maintenant je pourrais dire j'organisais, puisque ça fait pratiquement 2 ans de pause, des voyages en Pologne, mais ce sont des voyages, disons, de découverte, tourisme culturel, voilà. Et je me suis aperçu en amenant aussi bien des scolaires, des étudiants, que des jeunes retraités, notamment des anciens d'école des arts et métiers, qui avaient des postes à l'échelle nationale extrêmement élevés, donc avec une culture qui ont fait le tour du monde à nombreuses reprises. Et je me suis aperçu en arrivant en Pologne, bon, déjà ils étaient surpris de voir ce qu'ils ont vu, ce que j'ai pu leur montrer, mais surtout, ils découvraient. Même des gens après des études plus que supérieures, avec une culture mondiale, ils découvraient. Et juste un exemple, lorsque j'ai parlé à Varsovie de l'insurrection de Varsovie. L'insurrection de Varsovie, on est fin de 1944. Et automatiquement, tout le monde parle « Ah, l'insurrection du ghetto de Varsovie, c'est en 1943 ». Ça n'a rien à voir.
C'est deux événements distincts.
Et effectivement, si on regarde les manuels scolaires actuel encore, en cours, là, en France, l'insurrection de Varsovie est parfois même totalement
occultée.
On parle bien sûr du ghetto, puisqu'on parle de la Shoah. Donc je me suis dit, il faut faire connaître, c'est peut-être ma déformation professorale, si je peux dire, donc pour essayer d'expliquer, de présenter, pour ne pas oublier. Et du coup, j'ai publié un livre, Les clés pour comprendre la Pologne, 1939-45, autrement dit la Deuxième Guerre mondiale, avec l'insurrection de Varsovie notamment, bien sûr. Mais je me suis dit, enfin, c'est pas auto-censuré, mais je me suis dit qu'il serait pas normal de présenter là-dedans l'histoire des Juifs en Pologne, puisque c'était vraiment l'épicentre de l'enfer, pas seulement pour les Juifs, mais en particulier. Donc, du coup, j'ai écrit un autre livre, puisque un chapitre, c'était pas suffisant. Un autre livre, Les clés pour comprendre la Pologne et les Juifs. Et là, bien sûr, il faut expliquer, enfin, 1000 ans d'histoire juive, puisque c'est 1000 ans d'histoire, pourquoi la Pologne est devenue le pays d'accueil des Juifs du monde. Puisque avant la Deuxième Guerre mondiale, enfin la Première, pardon, c'était vraiment le premier centre mondial de la population juive. Rien qu'à Varsovie, ils étaient beaucoup, pratiquement 3 fois plus nombreux qu'au Proche-Orient, c'est-à-dire tout ce qu'on peut appeler Palestine, Israël, Liban, et rien qu'à Varsovie. Donc ça m'a amené à écrire un livre, je dirais, de popularisation, mais d'histoire, et de sociologie, mais c'est quand même très complexe. Alors du coup, comme je dessine en même temps, des amis m'ont suggéré de rendre cela plus abordable pour tout le monde, et puis donc on a fait, puisque j'ai écrit avec un collègue, Christophe Mailleux, un grand spécialiste de la Shoah, on a écrit ce livre, Anne a une histoire polonaise, en insistant histoire polonaise, comme quoi l'histoire des Juifs, c'est l'histoire de la Pologne, et inversement.
Et du coup, on va essayer un petit peu à notre échelle de parler de la Pologne, puisque vous dites que c'est encore assez méconnu. Encore une fois, je sais que merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de l'actualité polonaise. Quelques-unes de ses caractéristiques, depuis l'arrivée aux affaires du Parti conservateur droit et justice, le PiS, et bien sûr, de sa place dans l'Union européenne. On va commencer sans plus tarder par 2 grands dossiers d'actualité, avec d'abord l'entrée en vigueur de nouvelles restrictions concernant l'IVG. En effet, à la fin du mois d'octobre, les autorités polonaises ont annoncé mettre fin à la légalité des IVG réalisées en cas de malformation grave du fœtus. L'IVG n'est désormais autorisé plus qu'en cas de viol, d'inceste ou lorsque la vie de la mère est menacée par la grossesse. Les mesures ont finalement été adoptées fin janvier. Pourquoi ce retour en arrière de la part des autorités, alors qu'il y a moins de 2000 avortements par an en Pologne, contre à peu près 130 000 dans les années 80 ?
Le nombre d'avortements, c'est difficile à estimer, surtout que, comme dans le temps en France, la plupart se font d'une manière soit clandestine, soit les femmes s'en vont à l'étranger. Mais ça, c'est un problème. Pourquoi ? Là, on est obligé presque de faire un petit peu d'histoire aussi. Bon, je suis en plus de Gdańsk, la ville qui était à la base de la révolution, et surtout de 70 et 80, avec Solidarność, Lech Walesa. Étant de là-bas, j'ai participé, même souvent c'était à distance, mais j'y étais dans Solidarność, et j'ai vu renaître la Pologne. Enfin, une Pologne libre, indépendante, par la suite entrée dans l'Union européenne, c'était fantastique. Et puis les progrès étaient vraiment extrêmement rapides. Et là, tout d'un coup, on a vu reculer, je dirais presque avec une mentalité médiévale. Il y a, je dirais, plusieurs problèmes. En 2015, voilà, et puis c'est arrivé au pouvoir. Alors pourquoi, on pourrait se poser la question. Il y a l'usure du pouvoir. Le gouvernement précédent, PO, Plateforma Obywatelska, c'est-à-dire la plateforme du peuple, centre droit, donc elle était depuis 90 au pouvoir. Et puis, c'était peut-être une erreur, enfin, c'est pas peut-être, certainement. Lorsque Lech Walesa est arrivé au pouvoir, président de la République, il a amené avec lui une partie de soi, disons sa foi, et donc notamment ses conseillers, des prêtres, des évêques, l'Église. Quand vous avez une alliance entre le pouvoir et l'Église, l'un soutient l'autre, inversement, donc, et ça s'est terminé mal en France.
Et on va y revenir, effectivement.
Voilà. Ouais. Donc en Pologne, c'est exactement finalement la même chose. Et l'Église est arrivée au pouvoir, il n'y a pas d'autre monde. Puis avec des idées très fermées, nationalistes, populistes, et puis catho. Mais catho dans le sens conservateur d'un autre temps. Et une fois ce mélange ayant pris le pouvoir, ils ont cherché à imposer leur vision du monde en divisant le pays en deux, en disant que ceux qui sont contre eux, ce sont des mauvais Polonais. Et eux, ce sont des bons. Parce qu'un Polonais, il doit être blanc, bon, j'allais dire presque aux yeux bleus, catholique, tous les autres ne le sont pas. Alors, c'est pas la peine, bien sûr, de parler, c'est une autre honte, je pourrais dire, l'accueil des immigrés. Alors, ils ont dit à un moment donné, bon, de Syrie, les catholiques éventuellement, mais les non-catholiques, c'est pas la peine. Alors, tout ceci a fait que, ils veulent imposer de force leur vision du monde, complètement, je dirais, arriérée dans notre temps, même en désaccord total avec ce que dit le pape actuel François.
Et la contestation pro-IVG s'est répandue jusque dans les petits villages polonais. Ça fait longtemps qu'il n'y avait pas eu de réaction populaire de cette ampleur.
Effectivement. Là, les dernières manifestations, notamment, je crois, il y a plus d'un mois déjà, près de 500 000 Polonaises et Polonais, d'une manière générale, à Varsovie.
Plutôt des jeunes, plutôt des personnes âgées, ou c'est vraiment toute la Pologne qui s'est groupée derrière...
Avant tout des jeunes. Ça, c'est vraiment magnifique, mais il y a, par exemple, il y a une grand-mère qui est déjà connue dans les médias, puisqu'elle se fait systématiquement arrêter par la police, elle est avec des pancartes, ils écrivent sur des pancartes leurs slogans, hein. Alors à un moment donné, c'était pas mal, arrêtez tout cela, parce qu'on n'aura plus de carton bientôt. 500 000 personnes, on n'a pas vu pratiquement cela depuis Solidarność à Varsovie. Il y a des gens qui filment pendant les défilés, alors je suis avec eux. Je vois une foule comme ça qui marche dans la rue, mais vraiment, ils sont plein.
C'est pacifiste.
C'est côté pacifique vraiment. Ouais. Donc ça, c'est fantastique. Même si on écoute, si on comprend le polonais, les slogans sont très, très châtiés. Je dirais, comme on dit en Pologne, il y a les oreilles qui fanent quand on l'entend parfois. Mais enfin, c'est dégagé par rapport au pouvoir, mais d'une manière extrêmement violente. Et vulgaire, mais enfin, ça se comprend.
Deuxième volet d'actualité, on va parler d'histoire cette fois. Une historienne, Barbara Henkel-King, et un historien, Jan Grabowski, ont été condamnés à présenter des excuses après leurs travaux sur la Shoah. Dans leur ouvrage, ils ont en effet avancé le rôle de certains Polonais dans le génocide des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. En d'autres termes, on parle clairement de complicité. Or, la nièce d'un homme cité comme exemple dans ses travaux a porté plainte, et le tribunal lui a donné raison, soulevant un tollé chez les spécialistes de ses recherches. C'est risqué aujourd'hui de s'attaquer au roman national polonais.
C'est une histoire complexe et ancienne, elle a des racines, j'ai dit autant de communistes encore quand j'étais en Pologne. Lorsque j'étais jeune en Pologne, on n'entendait pas parler de l'antisémitisme, pas du tout. D'ailleurs, on n'entendait pas parler de juifs, parce qu'il n'y en avait plus pratiquement. Les Polonais étaient blancs, les Allemands noirs, les Russes, bon, c'est les Soviétiques, rouges, enfin noirs aussi. Enfin, c'est-à-dire, autour, tout le monde est mauvais, en gros, et les Polonais sont victimes. Cette histoire, c'était de l'ancien. Par la suite, donc, est arrivé Solidarność au pouvoir. Et là, la recherche s'est ouverte. On a pu travailler sur la Deuxième Guerre mondiale, notamment tout simplement sur la résistance, sur l'insurrection de Varsovie, puisqu'autant de communistes, on ne pouvait pas, puisque le communisme, dans les années 50, tout simplement exécutait le chef de la résistance polonaise, qui était, je signale, la plus importante résistance de l'Europe occupée. Donc, tout d'un coup, on a pu parler. Et c'est exactement la même chose par rapport aux Juifs. Et les Polonais, on sait bien, tout comme les Français, on n'est pas ni meilleur ni pire que les autres. En France, il y a eu des collabos, il y a eu des lations. D'ailleurs, sur Angers, la communauté juive m'a montré une plaque à la synagogue d'Angers avec quatre noms d'une même famille. Et ils ont dit que ce sont des Juifs qui ont fui la Pologne au début de la guerre. Ils sont arrivés à Angers en 40 ou quelque chose comme ça. Et puis par la suite, lors d'une rafle, la police française les a remis dans le train et retour à l'envoyeur, Auschwitz. Et cette famille, elle venait d'Oświęcim, c'est le nom polonais d'Auschwitz. Et puis voilà. Donc, ça se passe partout comme ça et c'est inévitable. En Pologne, donc, il y a eu des gens qui sauvaient des Juifs au péril de leur vie. Mais à côté de cela, bien sûr, il y a eu des délateurs, ceux qui, par leur propre intérêt, parce que les Allemands donnaient de l'argent ou tout simplement de la nourriture, ou bon, à distance, surtout connaissant, si vous connaissez l'histoire, il est difficile de juger les gens. On ne peut pas juger les gens individuellement. Mais il y a eu des comportements comme ci et comme ça. Énormément de livres sont sortis. J'ai découvert, en écrivant le précédent livre, justement, les clés pour comprendre la Pologne et les Juifs, j'ai découvert plein de choses, pas très jolies, mais je dirais normal. Si les voisins étaient capables de faire cela, en Pologne, ça se passait de la même manière. Mais une fois le PiS arrivé au pouvoir, ils ont voté une loi qui les interdit tout simplement, en fait, toute délation ou toute salissure par rapport à la Pologne.
Il ne faut pas toucher à la fierté polonaise.
Voilà, et punissable par la loi. Et justement, ces chercheurs sont tombés un plein là-dedans. Je dirais, il y en a qui publient encore, mais il y a un risque. Il y a un risque, c'est-à-dire on passe de nouveau dans une dictature populiste.
Et effectivement, c'est difficile de ne pas voir la mainmise du pouvoir politique sur cette décision de justice, ce qui nous permet maintenant d'aborder les réformes engagées par le PiS au pouvoir depuis 2015. La ligne politique est définie, vous me corrigez si je me trompe, par le président réélu Andrzej Duda, le premier ministre Mateusz Morawiecki, et le président du PiS, donc Jarosław Kaczyński. Deux points m'intéressent particulièrement. Je sais que le premier concerne l'indépendance des médias polonais. Depuis 2015, le pouvoir cherche à s'accaparer les médias afin de contrôler les informations diffusées. Le projet d'une taxe publicitaire a provoqué début février 2021 une levée de boucliers de plus de 50 organes de presse qui les priveraient d'une partie de leurs ressources. Faut-il y voir un début de dérive autoritaire ?
Oh, c'est pas le début, hein. C'est déjà depuis un certain temps, de toute façon.
C'est dans la continuité.
C'est la
2015.
Continuité, c'est-à-dire progressivement, tout doucement, ils arrivent à leur fin, avec le risque qu'à un moment donné, tout sera verrouillé. Au niveau de la presse, il suffit de voir, de toute façon, quand je suis en Pologne, quand je regarde les médias, la télé polonaise, enfin ce qu'on peut appeler la télé d'État. Heureusement, il y a encore quelques journaux, quelques radios qui sont autonomes, mais avec de moins en moins de moyens, effectivement. Mais en observant la presse, la télé, par exemple, d'État, les discours, un journaliste se doit toujours être objectif. Et en fait, il ne prend pas position, il conduit le débat. Tandis que là, systématiquement, le journaliste prend position, bien sûr, propice, ou raconte des histoires qui valent au premier ministre Morawiecki, d'ailleurs, le surnom de Pinocchio. Et les journalistes sont à fond là-dedans. Mais il n'y a pas que les journalistes.
Il y a l'Église. Il y a l'Église, oui.
Alors il y a l'Église, justement, et ça pose un problème énorme, puisque, bon, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la Pologne est devenue je dirais catholique, enfin j'insiste, est devenue catholique, elle était auparavant bien sûr aussi, mais pas uniquement catholique, elle était multireligieuse, multiethnique, multinationale. Dans les années 1600-1700, les catholiques n'étaient parfois même pas majoritaires. Bon, il y avait bien sûr des juifs, il y avait des musulmans, d'ailleurs en Pologne encore on trouve des communautés musulmanes qui sont là depuis le 14e siècle, c'est pas des migrants hein. C'est des Polonais musulmans, des descendants de Tatars en fait. Il y avait des protestants qui sont réfugiés énormément en Pologne puisqu'il n'y avait pas de guerre de religion en Pologne. Avec le changement, je dirais, de frontières après la Deuxième Guerre mondiale, après la Shoah bien sûr, mais la Pologne s'est retrouvée dans son jus polono-catholique tout simplement. Et là justement l'Église, elle est identifiée ou elle s'identifie aux Polonais, les Polonais s'identifient à l'Église, mais de moins en moins actuellement. Avant les élections, les dernières élections présidentielles, surtout à la campagne, c'est la Pologne de l'Est, parce que les grandes villes capitales, les villes intellectuelles, ils n'ont pas voté pour. Les grandes villes, la Pologne dynamique, intellectuelle, surtout pas. Par contre, la Pologne profonde, imaginez-vous, dimanche, les élections, tout le monde va bien sûr dans ses campagnes à la messe, et les prêtres vous disent ouvertement, vous devez voter PiS, parce que si vous vous votez contre, c'est un péché. Alors automatiquement, les gens sortant pour aller voter, et le résultat est là. C'est pareil maintenant, j'ai vu quelqu'un a filmé pendant une messe, un prêtre, pendant son serment, dire qu'il ne faut surtout pas se faire vacciner, parce que ces vaccins sont faits avec les fœtus d'enfants avortés. Et lorsqu'on en a pu entendre ces derniers temps le pape, où il appelle justement à se faire vacciner, moi j'ai dit qu'en Pologne actuellement, ce n'est pas l'Église catholique apostolique romaine, ça devient une secte.
Donc il y a deux cadres finalement qui nuisent entre guillemets au progrès en Pologne, c'est à la fois le PiS et l'Église.
Oui, tout à fait.
On parlait d'indépendance du pouvoir judiciaire et de la mainmise du pouvoir sur les médias qui se déroule en ce moment. Mais c'est aussi le cas de la justice, qui est plus que menacée par le PiS. Situation unique en Europe, le ministre de la Justice est également procureur, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des fonctions politiques et judiciaires. Même question, on est dans la continuité de la dérive autoritaire.
Totalement. En plus, ils ont fait voter les lois et puis ils ont nommé
la Cour suprême de justice,
voilà, leurs hommes à eux. C'est une mainmise aussi totale sur la justice. Et le responsable du ministère est considéré comme un des plus durs, plus fanatiques. Et à la limite, c'est celui qui voudrait pratiquement prendre le pouvoir à la place de Kaczynski. Kaczynski, qui est encore responsable du parti PiS. Depuis, je crois, 2 ou 3 mois, il s'est fait nommer, ou il a été nommé vice-premier ministre, donc, parce qu'il est maintenant au gouvernement officiellement. Mais jusqu'à présent, il n'était pas. Avant chaque conseil des ministres, le premier ministre, notamment Morawiecki, ou les autres ministres, allaient chez Kaczynski pour prendre des directives, comment doit ça se passer. Donc en fait, c'est lui qui dirigeait et qui dirige tout.
Pour terminer cet entretien, on va passer à l'échelle européenne. La Pologne est entrée dans l'Union en 2004, aux côtés de 9 autres États d'Europe de l'Est ou insulaires. À cette époque, il y avait une vraie envie d'Europe de tourner la page de l'époque communiste.
Bien sûr. Et il y en a toujours. En Pologne, malheureusement, toute la propagande et surtout si la religion s'y est mise, puisque notamment l'Église se focalise sur l'Europe de l'Ouest et notamment sur la France. À un moment donné, aussi bien Kaczynski que le gouvernement polonais présentaient comme principal ennemi de la Pologne. Bon, bien sûr, à l'Allemagne, à la Russie, mais surtout la France. Pourquoi ? Parce que les laïcs, donc contre la religion, et l'accueil des musulmans, tout, enfin, donc, et ils ont présenté la France comme l'ennemi de la Pologne. C'est n'importe quoi, je ne reconnais pas mon pays, je ne reconnais pas la Pologne, celle pour laquelle ont lutté mes parents, par exemple, pendant les années mondiales, moi avec Solidarność non plus. J'espère que l'usure du pouvoir arrivera, ou plutôt, je trouve un autre système, étant donné que l'Église appelle à ne pas se faire vacciner. Et pour PiS, ce sont surtout des personnes âgées qui votent, avant tout. Alors, je me dis, peut-être le coronavirus, va éliminer
peace, et du coup la Pologne retrouvera son indépendance.
En tout cas, aujourd'hui, la Pologne a pleinement trouvé sa place dans l'Union. L'ancien président du Conseil européen, Donald Tusk, est polonais. Il y a le siège de Frontex aussi en Pologne, qui est l'agence européenne des gardes-côtes, le Collège d'Europe, qui forme les futurs fonctionnaires européens à Natelin, et la Pologne est la première bénéficiaire en volume des fonds européens dans le budget 2014-2020. Vous pensez que cette appartenance, cette fierté d'appartenir à l'Union, c'est un petit peu affermi par rapport à vous, à votre époque, vous parliez en 2004, au moment de l'entrée de la Pologne dans l'Union?
Non, je pense pas. Il y a eu toujours une coupure d'un côté au départ. Lorsque la Pologne est rentrée dans l'Union, une partie des Polonais ont eu peur de la concurrence européenne, que l'Europe va acheter la Pologne, va écraser totalement, qu'ils ne pourront pas produire.
Avec
l'entrée
dans le marché.
Donc ils ont eu peur au niveau de marché. Tout comme en Europe, ils ont eu peur de la main-d'œuvre polonaise pas chère. Donc il y a eu déjà cette coupure. Par la suite, effectivement, et là, on voit, en circulant à travers la Pologne, on voit les autoroutes, les ponts, enfin, les constructions avec l'aide de l'Union européenne. La Pologne a changé énormément, et à une vitesse grand V. Et ça, certains, justement, nationalistes, populistes, ils oublient. Pour eux, l'ennemi, c'est l'Europe. Donc, c'est assez surprenant comment ça se passe. Mais néanmoins, et je vise quand même sur la jeunesse, les jeunes sont pro-européens, les intellectuels sont pro-européens. C'est seulement cette Pologne, je dirais, profonde, qui subit le lavage des cerveaux par les médias, notamment une radio qui est écoutée partout, l'antenne est extrêmement puissante. C'est ce qu'on appelle Radio Maria, en plus de Torugne, ville partenaire d'Angers. Et souvent, les Toruniens me disent, on s'excuse pour cette Radio Maria, puisque c'est vraiment une radio catholique, mais antisémite, fasciste, tout ce qu'on veut, enfin, une horreur, il n'y a pas d'autre mot.
Il existe plusieurs points noirs au sujet de l'appartenance de la Pologne dans l'Union. L'appartenance, justement, suppose le respect d'un certain nombre de critères, notamment le respect de l'état de droit et l'adhésion à la Convention européenne des droits de l'homme. Or, à la suite des réformes judiciaires qu'on a évoquées tous les deux, l'Union a enclenché l'article 7 du traité UE pour existence d'un risque de violation de l'état de droit. C'est quoi votre point de vue sur ce mécanisme? L'Union doit être plus ferme? Est-ce que la Pologne doit changer en profondeur sa société pour se conformer aux exigences européennes?
Les Polonais doivent virer PiS. Une fois PiS mis hors nuire, et puis aussi, bon, il faut que l'Église puisse se moderniser, tout simplement, à ce moment-là, ça ira. Mais je pense que si, effectivement, l'Europe était un peu plus ferme, ça pourrait peut-être changer davantage. PiS n'ose pas, s'il pouvait, effectivement, quitter l'Europe pour former une, comme j'ai dit, et moi je suis désolé de dire ça, mais je compare parfois à l'Iran, une république catholique polonaise. Bon, et s'ils pouvaient faire ça, ils seraient heureux.
Alors
mais
ils savent qu'il y a beaucoup d'argent qui arrive,
voilà,
bien sûr.
Il y a l'argent qui les maintient.
Donc il y a deux cadres, entre guillemets, si on se projette un petit peu dans l'avenir, il y a deux grandes réformes à faire, c'est virer le PiS, ça je pense qu'on l'a compris, et eh bien recréer une forme d'entente entre la société civile et l'Église catholique, qui est en pleine dérive.
C'est pas l'Église que j'ai connue. C'était une Église qui luttait et qui était auprès des malheureux, auprès des pauvres, auprès des oppressés. C'est sa place, comme toujours. Tandis que là, quand vous voyez certains prêtres avec des Mercedes, à Gdańsk, que c'était conseiller de Waleza, il avait plusieurs Jaguars avec des fauteuils en cuir et tout. Et il y avait des gens qui le défendaient. Notamment, je me rappelle, j'ai un ami qui habite juste en face de son église. Il y avait des critiques très fortes contre lui. Et il y avait des grands-mères avec des pancartes qui tournaient autour de l'église. Ils disaient toucher au père Jankowski, c'est toucher à la Pologne, etc., etc. Et puis finalement, on le savait, mais là, depuis peu, on a détruit sa statue. Il s'est fait, enfin, on lui a construit une statue à côté de son église en bronze. Et on le savait que c'était un prêtre. Ça, c'est notre problème. Pédophile. Un escroc. Il a fait une fortune. C'est le plus grand collectionneur de meubles antiques en Pologne. Profitant justement de l'amitié de Lech Walesa. Ça se passe comme ça. Encore une fois, j'ai dit, je ne reconnais pas le pays. Je ne reconnais pas l'église polonaise actuellement.
Voilà, c'était une grande première. On a balayé pas mal de sujets avec Jacek. J'espère que c'était accessible pour tout le monde. Si vous êtes intéressé par le blog, vous pouvez nous suivre ou nous contacter sur le site ou sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, il suffit de taper Causons d'Europe et sur Twitter, ce sera Causons E.
Merci Léo, il est effectivement l'heure de nous quitter. Très belle soirée sur les ondes de Radio Campus Angers. On se retrouve demain, d'ici là, portez-vous bien. Belle soirée, au revoir.